Chapitre 20. Question. Attends, arrête. Tu ne peux pas partir maintenant. J'ai d'autres questions à propos des ET. Apparaîtront-ils un jour sur Terre pour nous sauver? Vont-ils nous préserver contre notre propre folie en nous apportant de nouvelles technologies pour équilibrer les pôles de la planète, nettoyer notre atmosphère, harnacher l'énergie de notre soleil, régulariser notre climat et instaurer une meilleure qualité de vie dans notre propre petit nirvana? Réponse. Tu ne veux peut-être pas que cela arrive. Les EHE le savent. Ils reconnaissent que le seul résultat d'une telle intervention serait de vous laisser subjuguer par eux, de faire d'eux vos dieux, plutôt que les dieux par qui vous prétendez maintenant être subjugués. En vérité, vous ne l'êtes par personne. Et c'est ce que les êtres des cultures hautement avancées veulent vous faire comprendre. Si par conséquent, ils partagent certaines technologies avec vous, elles seraient données d'une façon à un rythme qui vous permettrait de reconnaître vos propres pouvoirs et potentiels, et non ceux des autres. De même, si des EHE devaient partager avec vous certains de leurs enseignements, ces derniers aussi seraient partagés d'une façon et à un rythme qui vous permettrait de voir des vérités plus grandes et vos propres pouvoirs et potentiels, et non de faire des dieux de vos maîtres. Question. Trop tard, nous avons déjà fait cela. Réponse. Oui, j'ai remarqué. Question. Ce qui nous amène à l'un de nos plus grands maîtres, l'homme appelé Jésus. Même ceux qui ne l'ont pas déifié ont reconnu la grandeur de ses enseignements. Réponse. Des enseignements qui ont été largement faussés. Question. Jésus était-il l'un de ces êtres hautement évolués? Réponse. Crois-tu qu'il était hautement évolué? Réponse. Oui, tout comme le Bouddha, le Seigneur Krishna, Moïse, Babaji, Sai Baba et Paramahansa Yogananda d'ailleurs. Réponse. En effet. Et bien d'autres que tu n'as pas mentionnés. Question. Eh bien, dans le tome 2, tu as suggéré que Jésus et ses autres enseignants étaient peut-être des visiteurs de l'espace, venus partager avec nous les enseignements et la sagesse des EHE. Alors, il est temps de nous raconter la suite. Jésus était-il un être de l'espace? Réponse. Vous êtes tous des êtres de l'espace. Question. Qu'est-ce que ça signifie? Réponse. Vous n'êtes pas né sur cette planète que vous appelez maintenant votre chez-vous. Question. Ah non? Réponse. Non. L'étoffe génétique dont vous êtes fait a été délibérément placée sur votre planète. Elle n'est pas tout simplement apparue de façon accidentelle. Les éléments qui ont formé votre vie ne sont pas combinés tout au long d'un processus de chance biologique. Il y avait un plan. Quelque chose de beaucoup plus grand a lieu. T'imagines-tu que le milliard de réactions biochimiques qu'il a fallu pour provoquer la vie telle que vous la connaissez sur votre planète se sont toutes produites à l'aveuglette? Crois-tu que ce résultat n'est qu'une chaîne fortuite d'événements aléatoires qui a donné un résultat heureux par hasard? Question. Non, bien sûr que non. Je suis d'accord. Il y avait un plan derrière tout ça, le plan de Dieu. Réponse. Bien. Car tu as raison. C'était mon idée, mon plan et mon processus. Question. Tu veux dire que tu es un être de l'espace? Réponse. Vers où, traditionnellement, vous êtes-vous tourné quand vous avez imaginé me parler? Question. Vers le haut, j'ai regardé en haut. Réponse. Pourquoi pas en bas? Question. Je ne sais pas. Tout le monde regarde toujours en haut, aux cieux. Réponse. Là d'où je viens? Question. J'imagine, oui. Réponse. Cela fait-il de moi un être de l'espace? Question. Je ne sais pas. Est-ce le cas? Réponse. Et si je suis un être de l'espace, cela m'enlève-t-il de ma divinité? Question. D'après ce que la plupart d'entre nous disent que tu peux faire, non. J'imagine que non. Réponse. Et si je suis un dieu? Cela réduit-il mes caractéristiques d'être de l'espace? Question. Tout dépendrait de nos définitions. Réponse. Et si je ne suis pas du tout un homme, mais plutôt une force, une énergie dans l'univers, c'est-à-dire dans tout ce qui existe, et si j'étais le collectif? Question. Eh bien, c'est en fait ce que tu as prétendu être. Dans ce dialogue, tu as dit cela. Réponse. En effet. Et le crois-tu? Question. Oui, je crois que oui. Du moins dans le sens où je crois que Dieu est tout ce qui est. Réponse. Bien. Alors crois-tu qu'il existe ce que tu appelles des êtres de l'espace? Question. Tu veux dire des êtres d'autres dimensions? Réponse. Oui. Question. Oui, je le crois. Je pense que j'ai toujours cru cela. Et tu m'as dit qu'il y en a. Alors je le crois sûrement. Réponse. Et ces êtres de l'espace font-ils partie de tout ce qui est? Question. Eh bien oui, sûrement. Réponse. Et si je suis tout ce qui est? Cela ne fera-t-il pas de moi un être de l'espace? Question. Eh bien, oui, mais d'après cette définition, tu es aussi moi. Réponse. Bingo. Question. Oui, mais tu t'es joyeusement éloigné de ma question. Je t'ai demandé si Jésus était un être de l'espace. Et je crois que tu sais ce que je veux dire. Était-il un être de l'espace ou est-il né ici sur Terre? Réponse. Ta question présuppose une fois de plus la logique ou bien. Ne pense pas à cocher une case. Rejette l'alternative ou bien. Et considère à la fois et. Question. Tu veux dire que Jésus est né sur Terre mais qu'il avait du sang d'être de l'espace, pour ainsi dire? Réponse. Qui était le père de Jésus? Question. Joseph. Réponse. Oui, mais qui, dit-on, l'a conçu? Question. Certaines gens croient que c'était une immaculée conception. Selon eux, la Vierge Marie a reçu la visite d'un archange. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Réponse. Crois-tu cela? Question. Je ne sais pas ce qu'il faut croire ou non. Réponse. Eh bien, si Marie a reçu la visite d'un archange, d'où l'ange serait-il venu d'après toi? Question. Du ciel. Réponse. As-tu dit des cieux? Question. J'ai dit du ciel, d'un autre royaume, de Dieu. Réponse. Je vois. Et ne sommes-nous pas d'accord sur le fait que Dieu est un être de l'espace? Question. Pas exactement. Nous nous entendons pour dire que Dieu est tout, et que, puisque les êtres de l'espace font partie de tout, Dieu est un être de l'espace au même sens que Dieu et nous. Nous tous. Dieu est tout. Dieu est le collectif. Réponse. Bien. Alors cet archange qui a rendu visite à Marie provenait d'un autre royaume, un royaume céleste. Question. Oui. Réponse. Un royaume profondément enfoui en toi-même, car le ciel est en toi. Question. Je n'ai pas dit cela. Réponse. Bon. Alors un royaume au sein de l'espace intérieur de l'univers. Question. Non, je ne dirais pas cela non plus, car je ne sais pas ce que cela signifie. Réponse. D'où alors? Un royaume de l'espace extérieur? Question. Tu joues avec les mots à présent. Réponse. Je fais de mon mieux. J'emploie certains mots, malgré leur connotation extrêmement limitée, afin de me rapprocher le plus possible d'une idée, d'un concept des choses, qui, en retour, ne peuvent être décrits avec le vocabulaire restreint de votre langage, ni compris dans les limites de votre degré actuel de perception. Je cherche à l'ouvrir à de nouvelles perceptions en utilisant votre langage d'une nouvelle façon. Question. D'accord. Alors, selon tes propos, Jésus a été engendré par un être hautement évolué, venu d'un autre royaume, et par conséquent, était un humain, mais aussi un EHE. Réponse. Beaucoup d'êtres hautement évolués ont foulé le sol de votre planète, et particulièrement aujourd'hui. Question. Veux-tu nous laisser entendre que des étrangers sont parmi nous? Réponse. Je vois que ton travail pour les journaux, les talk-shows radiophoniques et la télévision t'a bien servi. Question. Que veux-tu dire? Réponse. Tu peux trouver une façon de tout rendre sensationnel. Je n'ai pas affirmé que les EHE étaient des étrangers, et je n'ai pas dit non plus que Jésus l'était. Dieu n'a rien d'un étranger. Il n'y a pas d'étrangers sur la Terre. Nous ne faisons tous qu'un. Si nous ne faisons tous qu'un, aucune individualisation de nous n'est étrangère à elle-même. Certaines individualisations de nous, c'est-à-dire certains individus, se rappellent plus que d'autres. Le processus se réunir à Dieu ou devenir, une fois de plus, un avec le tout, avec le collectif, en est un que vous appelez évolution. Vous êtes tous des êtres en évolution. Quelques-uns parmi vous sont hautement évolués. En d'autres termes, ils se rappellent davantage. Ils savent qui ils sont vraiment. Jésus le savait et l'a déclaré. Question. D'accord, je comprends que nous allons jouer sur les mots à propos de l'affaire de Jésus. Réponse. Pas du tout. Je vais tout te dire sans détour. L'esprit de cet humain que vous nommez Jésus n'était pas de cette terre. Cet esprit a tout simplement rempli un corps humain, s'est permis d'apprendre comme un enfant, est devenu un homme et s'est accompli. Il n'est pas le seul à avoir fait cela. Tous les esprits ne sont pas de cette terre. Toutes les âmes viennent d'un autre royaume, puis entrent dans le corps. Mais toutes ne s'accomplissent pas au cours d'une vie particulière. Jésus l'a fait. C'était un être hautement évolué, ce que certains d'entre vous ont appelé un dieu. Et il est venu vers vous dans un but, pour une mission. Question. Pour sauver nos âmes? Réponse. En un sens, oui. Mais pas de la damnation éternelle. Rien de semblable à ce que vous avez imaginé. Sa mission était, est, de vous sauver du fait de ne pas savoir et de ne jamais faire l'expérience de qui vous êtes vraiment. Son intention était de démontrer cela en vous montrant ce que vous pouviez devenir, soit ce que vous êtes, si seulement vous voulez l'accepter. Jésus cherchait à mener par l'exemple. Voilà pourquoi il disait « Je suis la voie et la vie, Suivez-moi. Il n'entendait pas que vous le suiviez au sens où vous seriez tous devenus ses disciples, mais au sens où vous suivriez tous son exemple et vous uniriez à Dieu. Il disait « Le Père et moi ne faisons qu'un, et vous êtes mes frères ». Il n'aurait pu l'exprimer plus simplement. Question. Alors Jésus ne venait pas de Dieu, il venait de l'espace. Réponse. Ton erreur consiste à séparer les deux. Tu continues d'insister pour distinguer ces deux notions, tout comme tu insistes pour créer une séparation et une distinction entre les humains et Dieu. Et je te dis qu'il n'y en a aucune. Question. D'accord. Avant que nous terminions, peux-tu ajouter quelques derniers éléments à propos des êtres des autres mondes? Comment s'habillent-ils? Comment communiquent-ils? Et s'il te plaît, ne me répète pas que c'est encore là de la curiosité futile. Je crois avoir démontré que nous pourrions apprendre quelque chose. Réponse. Très bien. Brièvement alors. Dans les cultures hautement évoluées, les êtres ne sentent aucun besoin de s'habiller, sauf lorsqu'ils doivent se couvrir pour se protéger des éléments ou des conditions sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir, ou lorsque des ornements servent à indiquer un rang ou un honneur. Un EHE ne comprendrait pas pourquoi vous couvrez entièrement votre corps lorsque vous n'avez pas besoin de le faire. Il ne saisirait certainement pas le concept de honte ou de pudeur et ne comprendrait pas non plus l'idée de se vêtir pour se rendre plus joli. Aux yeux d'un EHE, il ne pourrait y avoir rien de plus beau en soi que le corps nu. Par conséquent, le concept de porter quelque chose par-dessus pour le rendre d'une certaine façon plus agréable ou attrayant lui serait absolument incompréhensible. Tout aussi incompréhensible serait l'idée de vivre, de passer la plupart de son temps, dans des boîtes, que vous appelez édifices et maisons. Les EHE vivent dans un environnement naturel et ne demeureraient à l'intérieur d'une boîte que si leur environnement devenait inhospitalier. Ce qui arrive rarement, puisque les civilisations hautement évoluées créent, contrôlent et prennent soin de leur environnement. Les EHE comprennent aussi qu'ils ne font qu'un avec cet environnement, qu'ils partagent plus que l'espace qui s'y trouve, mais aussi une relation de dépendance mutuelle. Un EHE ne comprendrait jamais pourquoi vous feriez du tort ou détruiriez ce qui vous soutient et ne pourrait que conclure que vous ne comprenez pas que c'est votre environnement qui vous soutient, que vous êtes des êtres ayant des capacités d'observation fort limitées. Quant à la communication, un EHE utilise d'abord l'aspect de son être que vous appelleriez les sentiments. Les EHE sont conscients de leurs sentiments et de ceux des autres, et personne parmi eux ne tente jamais de les cacher. Les EHE estimeraient que cela va à l'encontre du but qu'ils recherchent et trouveraient donc incompréhensible de cacher leurs sentiments pour ensuite se plaindre que personne ne semble les comprendre. Les sentiments représentent le langage de l'âme, et les êtres hautement évolués savent cela. Dans une société d'EHE, le but de la communication est de se connaître mutuellement dans la vérité. Par conséquent, un EHE ne peut comprendre, et ne comprendrait jamais, le concept humain appelé « mensonge ». Arriver à ses fins en communiquant une non-vérité serait pour un EHE une victoire si vide de sens qu'elle n'en serait pas une et serait plutôt une défaite atterrante. Les EHE ne disent pas la vérité, ils sont la vérité. Tout leur être vient de ce qui est et de ce qui fonctionne, et ils ont appris il y a longtemps, à une époque antérieure à la mémoire, alors que la communication était encore accomplie au moyen de sons gutturaux, que la non-vérité ne fonctionne pas. Vous n'avez pas encore appris cela dans votre société. Sur votre planète, une grande part de la société est fondée sur le secret. Nombre d'entre vous croient que c'est ce qui les éloigne des autres, et non ce qu'ils disent aux autres, qui fait en sorte que la vie fonctionne. Ainsi, le secret est devenu votre code social, votre code d'éthique. C'est véritablement votre code secret. Ce n'est cependant pas vrai de vous tous. Vos cultures anciennes, par exemple, et vos peuples indigènes ne vivent pas selon ce code. Et bien des individus dans votre société actuelle ont refusé d'adopter ce comportement. Mais votre gouvernement fonctionne selon ce code, vos entreprises l'adoptent, et nombre de vos relations le reflètent. Mentir, à propos de grandes et de petites choses, est devenu un fait accepté par tant de gens qu'ils mentent même à propos du mensonge. Ainsi, vous avez développé un code secret à propos de votre code secret. Comme le fait que l'empereur ne porte pas de vêtements, chacun sait cela, mais personne n'en parle. Vous essayez même de faire semblant du contraire, et en cela, vous vous mentez à vous-même. Question. Tu as déjà fait valoir cet argument? Réponse. Dans ce dialogue, je répète les points essentiels, les points principaux, que vous devez saisir si vous voulez vraiment changer les choses, comme vous dites vouloir le faire. Alors je dirais ceci. Les différences entre les cultures humaines et les cultures hautement évoluées résident dans le fait que les êtres hautement évolués observent pleinement et communiquent sincèrement. Ils voient ce qui fonctionne et énoncent ce qui est. C'est là un autre changement mineur mais profond qui améliorerait immensément la vie sur votre planète. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'une question d'ordre moral. Dans une société d'EHE, il n'y a pas d'impératifs moraux. Et ce serait un concept tout aussi curieux que le mensonge. Ce qui compte, c'est tout simplement de savoir ce qui est fonctionnel, ce qui est avantageux.